Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, c'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques. Alors aujourd'hui, je vous propose un essai d'un type un peu particulier. Il est celui d'un chef d'État, mais aussi d'un responsable spirituel. Dans son pays, le Vatican, on ne dit pas un essai, mais une encyclique. Elle s'appelle Magnifica Humanitas. Elle a été écrite par Léon XIV, donc le pape actuel. Elle fait une centaine de pages, 250 paragraphes, 40 000 mots. Édition du Cerf qui va les publier. Je ne pense pas qu'elles soient encore dans les bacs, c'est une question d'une semaine. Et ça vous coûtera la modique somme de 4,90 €. Et dans cette encyclique, le pape Léon XIV développe une réflexion sur la révolution de l'intelligence artificielle et ses conséquences sur la dignité humaine. Au Vatican, le pape américain a choisi de présenter lui-même, et c'est un fait inédit, ce document d'Église qui lance un appel à encadrer et réguler les algorithmes. Alors l'auteur, vous le connaissez, il s'appelle Robert Francis Prevost. Il est né le 14 septembre 1955 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. C'est un prélat catholique qui est péruvien, puisqu'il a pris aussi la nationalité du pays où il avait été nommé, et il a été élu pape le 8 mai 2025 sous le nom de Léon XIV. Alors c'est le premier souverain pontife né après-guerre et originaire des États-Unis. Il est également le premier pape issu de l'ordre de Saint-Augustin. Donc comme je le disais précédemment, missionnaire au Pérou entre 1985 et 1998, il va ensuite exercer des responsabilités à la maison mère de son ordre à Rome de 2001 à 2013, puis il est nommé évêque du diocèse péruvien de Chiclayo. Il a pris sa nationalité péruvienne en 2015 et il est donc le premier pape péruvien. En 2023, il est nommé par le pape François pour succéder au cardinal Ouellet à la tête du dicastère pour les évêques, qui est un des postes les plus stratégiques, les plus importants de la curie romaine. Il est responsable de la nomination des évêques dans le monde entier. Et il prend officiellement ses fonctions le 12 avril 2023. Le 30 septembre de la même année, lors du consistoire présidé par François, il est créé cardinal. Et vous le savez, à la suite de la mort du pape François et du conclave 2025, il est élu pape. Alors cette encyclique va être éditée par les éditions du Cerf, ou des fois on dit le Cerf, qui est une maison d'édition fondée en 1929 par le dominicain Marie-Vincent Bernadot et gérée par l'ordre dominicain qui en est toujours le propriétaire. Elle est spécialisée dans la publication d'ouvrages religieux, exégétiques, historiques et philosophiques. Et elle est dirigée par Jean-François Colosimo depuis 2013, hein, Colosimo que vous voyez souvent, notamment sur Arte, mais qui est un historien très médiatisé. Et la maison d'édition élargit son champ au profit de textes et d'essais un peu plus grand public. Alors, sous-titre de cette encyclique, c'est sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est une édition officielle de la Conférence des évêques de France, et voilà comment il est présenté. Première encyclique du pape Magnifica Humanitas, donc Magnifique Humanité, marque l'entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacré à l'intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle. 135 ans après l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, le pape actuel affronte la question décisive de la transformation du travail et du rapport entre l'homme et la machine. Comme la révolution industrielle avait posé la question du rapport entre capital et travail, la révolution numérique interroge désormais la place irréductible de la personne humaine face à la technique. Tout en reconnaissant les possibilités immenses offertes par l'IA, le pape met en garde contre les risques de déshumanisation, de manipulation, d'asservissement économique et d'affaiblissement du jugement critique. La technique doit demeurer un instrument au service de l'homme et ne peut devenir la mesure de sa dignité. Vérité, justice sociale, responsabilité politique et dignité inviolable de la personne structurent ce texte appelé à devenir une référence majeure de la doctrine sociale de l'Église. Un texte majeur à destination de tous les hommes et femmes du XXIe siècle. Alors la table des matières, elle est la suivante, il y a 5 chapitres. D'abord une introduction, chapitre 1er, une pensée fidèle à l'Évangile. Chapitre 2, fondements et principes de la doctrine sociale de l'Église. Chapitre 3, technologie et maîtrise, la grandeur de la personne humaine face au problème de l'IA. Chapitre 4, présence l'humain, présentation de l'humain, de la transformation de la vérité, pardon, travail, liberté. Chapitre 5, la culture du pouvoir et la civilisation de l'amour. Et nous terminons par une conclusion qui, assez classiquement, se conclut par une exhortation à la piété mariale. Alors, comme d'habitude, les classiques lectures de passage. Là, le premier que je vais vous citer, c'est le paragraphe 5. Le voici. Maintenant, c'est à nous de relever avec lucidité et responsabilité les défis de notre époque. Il est nécessaire d'adopter des instruments réglementaires adaptés, capables de préserver la justice et de limiter les effets perturbateurs du pouvoir technologique. Mais la question ne se limite pas à la réglementation. Comme l'a souligné le pape François, il faut se demander avec réalisme qui détient aujourd'hui ce pouvoir et à quelle fin il l'utilise. Nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Par le passé, c'était surtout les États qui guidaient et orientaient l'innovation. Aujourd'hui, en revanche, les principaux moteurs du développement sont des acteurs privés, souvent transnationaux, dotés de ressources et de capacités d'intervention supérieures à celles de nombreux gouvernements. Le pouvoir technologique prend ainsi un visage inédit, essentiellement privé, et donc d'autant plus difficile à cerner, à réguler et orienter vers le bien commun. Alors je vous propose de nous rendre au paragraphe 67, il y en a plus de 150, il y en a 250, pardon, c'est largement plus, le paragraphe 67 que je vous lis. Aujourd'hui, parmi les biens universellement destinés à tous, nous devons également compter les nouvelles formes de propriété, brevets, algorithmes, plateformes numériques, infrastructures technologiques, données. Dans un contexte où la richesse des nations dépend de plus en plus des connaissances et des technologies, quand ces biens restent concentrés entre les mains de quelques-uns, sans forme adéquate de partage et d'accès, il se crée un nouveau déséquilibre contredisant la destination universelle des biens et alimentant le fossé entre les inclus et les exclus, entre ceux qui peuvent participer à la révolution numérique et ceux qui en restent à l'écart. De plus, le soin de la maison commune, comme la responsabilité envers les pauvres et les générations futures, requiert que l'usage des biens et de la création et des nouvelles possibilités offertes par la technique soit réglementé de manière à respecter l'environnement, à éviter le gaspillage et les nouvelles formes de pillage. Et un petit dernier que je vais chercher pas très loin, au paragraphe 79. La notion de justice sociale aide à reconnaître que les injustices ne naissent pas seulement de mauvais choix individuels, mais aussi de structures, de mécanismes, d'ordre économique et culturel, produisant presque automatiquement des inégalités. Elle vise à rétablir les liens rompus et à réintégrer ceux qui ont été exclus, en tenant compte des blessures laissées par les injustices, guerres, colonialisme, discrimination raciale ou de genre, violence contre des peuples entiers, exploitation. Cela peut signifier redonner dignité et voix à ceux qui ont été ignorés, favoriser des processus de guérison de la mémoire collective, lutter contre des lois et des pratiques discriminatoires, soutenir concrètement ceux qui portent encore aujourd'hui les conséquences de torts subis dans le passé. Donc vous voyez, à travers ces trois lectures, vous voyez un peu le ton du pape Léon XIV. Je pense que peut-être, si je puis employer cette expression un peu triviale, les oreilles de Monsieur Trump, et de façon un peu plus édulcorée, celles du président chinois ont dû quelque peu siffler. Alors la conclusion de cet essai, parce qu'il y a une conclusion, d'abord il faut savoir qu'il y a deux images bibliques importantes qui encadrent tout le texte. D'abord la tour de Babel, qui est le symbole d'une technique un peu rendue folle, qui vient de l'hubris de l'homme, qui est coupé de Dieu. Et puis à côté, la reconstruction de Jérusalem par Néhémie, qui est une figure d'un travail patient, ordonné au bien commun. Donc deux images fortes et qui à elles seules résument fort bien la philosophie du texte. Et le pape nous invite à observer avec lucidité les filières de la production numérique, les conditions de travail qui sont cachées derrière nos dispositifs, les mécanismes qui tirent profit de la manipulation et de la guerre. Et en même temps, il nous invite à chercher des voies concrètes pour faire grandir l'équité, la participation et le soin de la création. Et puis, il nous rappelle notre vocation à être à l'ère de la transformation numérique, non pas des spectateurs résignés face aux fractures sociales et culturelles, ni de simples commentateurs des ruines, mais des femmes et des hommes qui entrent sur les chantiers de l'histoire, laboratoires de recherche, entreprises technologiques, écoles, médias, institutions, communautés locales, pour relever ce qui est écroulé et protéger ce qui est exposé. Autrement dit, c'est un appel à surmonter nos divisions et à travailler ensemble. Alors, pourquoi faut-il le lire? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Eh bien, d'abord, c'est un texte, à mes yeux, essentiel, d'une grande clarté, d'une grande précision, qui aborde sans concession les problèmes de notre temps, une réflexion sur l'homme et sur les nouvelles technologies. Et ce faisant, Léon XIV se place finalement dans la droite continuation de son prédécesseur Bergoglio, alors certes dans un style assez différent, peut-être moins provocateur. Ce dernier, Bergoglio, en 2015, sur la question environnementale et le réchauffement climatique, avait publié Laudato Si, première grande prise de position papale en faveur de la protection de la planète, là aussi, une encyclique extrêmement importante. Pour revenir sur le texte de Léon XIV, eh bien, il faut le dire, il est finalement assez révolutionnaire. Que l'on soit croyant ou non, l'on ne peut qu'être interpellé par le propos. Il nous concerne pleinement toutes et tous, il nous incite à une réflexion sur notre présent, parce que l'IA est déjà là, mais aussi sur notre avenir. Mais le constat du pape, hein, il faut bien le reconnaître, il est sombre, il est critique, il est sévère. Et le religieux demande une pause pour recadrer, s'il est encore temps, la vitesse astronomique de développement de l'intelligence artificielle. La présentation au Vatican, vous l'avez peut-être vu par le pontife lui-même, c'est je pense une première, et puis était également à ses côtés Dario Amodei, à qui le pape a donné la parole, et Dario Amodei n'est autre que le créateur de Claude, une IA qui se veut raisonnable et responsable, et qui aujourd'hui se trouve en conflit avec Donald Trump et son administration. C'est quelqu'un qui a fait de la résistance, qui lui vaut aujourd'hui certains désagréments dans ce pays qui n'est plus tout à fait une démocratie. Alors le texte de Léon XIV possède une valeur politique au moins aussi forte que sa valeur spirituelle. C'est certes une publicité considérable hein, pour Anthropique qui publie Claude, mais aussi une mise en garde importante adressée aux milliardaires de la tech qui, on le sait, craignaient cette publication qu'ils ont essayé de retarder un peu par tous les moyens. La richesse de ce texte et de son contenu le rend difficile à résumer, tant il aborde une foultitude de questions essentielles pour nos civilisations. Alors ce serait un peu compliqué, voire lassant de les citer toutes. On parle du principe de subsidiarité, de solidarité, d'interdépendance, de justice sociale, de destination universelle des biens, de bien commun, de la valeur suprême des droits de l'homme, de l'égale dignité de tous les êtres humains. C'est un texte où certains mots reviennent. Par exemple, l'expression « dignité de la personne » revient de façon récurrente, mais également le terme de « bien commun ». Et puis, il parle beaucoup de « data », et c'est une image assez surprenante, mais qui me semble parfaitement pertinente, son assimilation des « data » à ce que nous appelons aujourd'hui les terres rares. Alors ce texte, il faut impérativement le lire, il faut le réfléchir, il faut en débattre. Beaucoup de l'avenir de l'Homo sapiens se joue actuellement, et essentiellement celui de nos enfants. Alors nous avons le droit, le devoir de peser sur cet avenir, et de contribuer ensemble à le définir. Et un peu comme l'essai de Bruno Patino, dont je vous ai récemment parlé, souvenez-vous, le thème « Le temps de l'obsolescence humaine », cette encyclique est un texte majeur dont il faut s'emparer sans attendre. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne, avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver bien sûr le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.